Voilà. Donc, je vais vous parler des manuscrits à l'effet eau. On a beaucoup de collections, passé un certain nombre de collections de manuscrits à l'effet eau. Et donc, on a décidé de les intégrer au catalogue des manuscrits de l'enseignement supérieur à Calame. J'ai fait une formation il y a maintenant 3 ans à la BES pour ça. Et donc, on a commencé le travail d'intégration de ces collections dans Calame. Voilà. Donc, on a 15 fonds de manuscrits à l'effet eau. On a d'abord les manuscrits Khmer sur Ol et Krang. Donc, c'est la cote MSS Khmer eau. On a 407 manuscrits. Alors oui.
Ah,
j'en étais sûr. Ça grince. Donc les Hull, c'est des manuscrits sur feuille de latanier. Donc vous allez en voir. Et les crans, c'est la même chose, oui. Hein, on va dire. Non, c'est la seconde. Non, j'ai repris l'intitulé qu'avait mis Jacqueline Filiosa dans le.
Aussi c'est Jacqueline.
Voilà, dans son inventaire des manuscrits de l'Effeo. Donc c'est sérieux, je me suis dit, bon, on va garder ça. Donc on a 407 manuscrits. Alors oui, l'exposé, j'oublie ça, il va y avoir 3 parties dans l'exposé. D'abord, je vous présenter les collections, ensuite, je vous présenter Calame, l'outil, et ensuite, je vous présenter les collections qu'on a commencé à intégrer dans Calame. Alors, deuxième, j'espère faire comme ça, je vais y arriver, comme ça, voilà. Un exemple de manuscrit Khmer O, celui-là c'est le O291, donc c'est un petit manuscrit sur la divination, c'est un don de M. Olvé de novembre 1925. Voilà, le même manuscrit ouvert. Deuxième fond, les manuscrits Khmer sur papier, donc celui-là c'est le. Code MSS Campé, 226 manuscrits. Un exemple de manuscrit, le P61, donc une liasse de 8 collections Gueston, le même couvert. Pour ceux qui savent lire le Khmer, c'est bien. Voilà. Hop. Voilà. Le manuscrit taille ou taille. Alors, petite nuance, parce que vous allez avoir les manuscrits ici à moi plus tard. Là, on parle des manuscrits Thaï du Vietnam, donc des ethnies Thaï du nord de la péninsule. Donc, c'est les MSS Thaï 353 manuscrits. Un exemple ici, les MSS Thaï 324. Ici, je frime, c'est du Thaï Lam. Je suis super content parce que c'est les gens avec qui j'ai travaillé. J'ai réussi à trouver une police Unicode, donc c'est vachement bien. Donc, paroles relevant de la magie, destinées à maîtriser les esprits des bêtes féroces que l'on a abattues. Là, je reprends le catalogue. Des manuscrits, l'intitulé, la description des manuscrits dans le catalogue de 1994, donc, je vais y revenir plus tard. Hop, même ouvert. Hop. Ensuite, les manuscrits Cham du Champa, code MSS Cham, 229 manuscrits. Hop, un exemple, collection Antoine Cabaton, livre de rituel en écriture Cham magique, c'est de la carte brique. Enfin, c'est un chercheur de l'Effeo qui me l'a dit. Hop, le même ouvert. C'est beau. Donc ça veut dire que c'est une écriture qui est incompréhensible aux gens qui ne sont pas initiés, qui ne sont pas des maîtres de rituels. Des manuscrits ici à moi. Donc, à la différence des manuscrits de taille, code MSS ici à moi, 140 manuscrits. C'est ici. Un exemple ici. Hop, en accordéon, papier noir. Le même ouvert. Louise, ça parle de quoi?
Magnifique.
Voilà. Les manuscrits Taïwan, code MSS Yuan, 96 manuscrits. Les manuscrits Yuan, donc là, un exemple. Alors, donc c'est sur Hall. Donc là, ça parle de quoi? C'est un truc de bouddhisme, je t'imagine? C'est une. Ou pas?
Bon,
faut t'embêter. Hop! Voilà, les manuscrits Tyler, code MSS Tyler, on a 92 manuscrits. Ça, pas de catalogue de manuscrits Tyler, je signale, on a encore pas mal de travail de récollement. Le même ouvert. Les manuscrits Mon, 83 manuscrits. Pour lui, même pour moi. Hop. Donc, Ici, manuscrit MON P22, c'est un ouvrage relié. Alors ça, c'est intéressant, c'est un ouvrage relié contenant des photographies du manuscrit. Ce n'est pas le manuscrit du même, ce sont des photographies qui ont été collées dans un ouvrage. Voilà. Donc, les manuscrits Nassi. Les Nassi, c'est un peuple du Yunnan, en fait, hein, du sud de la Chine. Donc, 46 manuscrits. Et alors, c'est superbe. C'est un manuscrit sur Hall, donc aussi écriture pictographique dite Dongba. C'est l'une des dernières écritures de type pictographique existante, vivante, entre guillemets, au monde. C'est du même, c'est des idéogrammes comme les, comment on appelle ça, les hiéroglyphes égyptiens, quoi. C'est la même chose. C'est la même petite écriture. On l'a ici ouvert. C'est super beau. Voilà.
Je laisse un petit peu. Fils qu'il a pas.
Non, bah, il pourrait, hein, mais. Les manuscrits birmans. Hop, je vais essayer de lire 18 manuscrits. Alors, ça, c'est beau aussi. Hein. Toc, un manuscrit peint sur Hall. Un rare exemple d'utilisation de couleurs sur des feuilles de palmier non gravées. Là, on a toc ici ouvert. Les manuscrits indonésiens. Code MFS random, 6 manuscrits, ici les carnets donc, manuscrit sur Hall reliure en bois avec une petite médaille, toc, ici ouvert, toc, oui, on revient.
Indonésien,
quelle écriture,
c'était
je sais pas.
Parce que là, on dirait aussi, du. Je sais pas quoi.
Il n'y a pas de roulette là-dessus d'ailleurs, comment je vais faire pour avoir une.
Tu fais
ah,
du gros plus peut-être.
Non, ça marche pas. Hop.
Contrôle plus.
Contrôle plus.
Et c'est pas super.
Il est où le plus là? Le plus ici. Toc, là.
Ouais. Des fois ça marche.
Non. Ah, c'est même pas le bon de toute façon. Hop, ici.
Ça marche pas ça?
Je vois pas. C'est déjà valé?
Jean-Marc, allez quoi.
Jean-Marc. Oui, c'est la même écriture. Enfin, c'est le même manuscrit en tout cas. Après, je sais pas, moi je le lis pas. Bon. En tout cas, là, le prochain c'est du Batak, toujours en Indonésie. Je sais pas combien il y a de manuscrits. Je pense qu'il y en a 16, mais j'ai pas fait le récollement.
C'est bizarre d'avoir mis indonésien et après Batak.
Oui, c'est aussi indonésien, mais je l'ai trouvé. Ça a été intégré dans les fonds comme ça. Il y a un manuscrit indonésien et après un manuscrit Batak. Je me suis posé la question effectivement quand j'ai fait cette intervention, quand j'ai préparé l'intervention, pourquoi un fonds spécial Batak. Et peut-être qu'il a été intégré plus tard, c'est un fonds particulier. Mais effectivement, on verra plus tard, mais il y a toujours un travail historique à faire sur l'intégration des manuscrits dans les établissements. Donc le manuscrit Batak, il est superbe, hein, vous pouvez voir ça. Manuscrit sur Hall, écriture à la facile, syllabaire de Chitravik. Voilà, il est très abîmé, mais ce sont des cercles en cuir.
Voilà.
Hop. Voilà, ben, on retourne encore. Je pense que j'en ai un autre. Non. Voilà. Bon, voilà. Donc maintenant, les collections manuscrits donc sur microfilm. Il y a de nombreux manuscrits, en particulier Lao et vietnamiens, qui sont sur microfilm à FAO. Les originaux ayant été laissés. Sur place, au moment où l'FAO s'est carapaté en France, ils ont dû partir après Diet Men Phu. Voilà. Donc, il n'existe aucun catalogue sur fiche cartonnée de ces microfilms, mais il n'y a pas d'inventaire précis. Il n'existe qu'un seul catalogue sur fiche cartonnée et pas d'inventaire précis à faire. Et enfin, les manuscrits européens. Code MSSR, on a 560 manuscrits, c'est le fonds le plus important. C'est majoritairement en français, mais aussi en néerlandais, en anglais, avec du contenu en écriture locale. Oui, c'est pas ça, je suis bien au bon endroit. Exemple, ici c'est une étude sur le dialecte des Manukwamukwok par le capitaine Bonifaci. Voilà, et donc une page de ce manuscrit, c'est avec un dessin fait par l'auteur, d'une pipe. Voilà. Donc, toutes ces collections ont vocation à intégrer Kalam. Le traitement pour Kalam a commencé pour deux d'entre elles, les manuscrits Thaï et les manuscrits européens. Donc, maintenant, deuxième partie, le catalogue des archives et des manuscrits de l'enseignement supérieur, donc Kalam, dont on vous a parlé ce matin. Hop. Donc, ah oui, ici, donc, on peut cliquer. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de faire ça, mais mon calame ne va pas m'embêter. Donc, je vais mais hop. Ça marche. Ouais. Ça va, hein. Ouais. Donc, c'est le site, dans la page, dans le début de calame. Donc, ici, on peut avoir accès à toutes les. Toutes les instances de production, toutes les instances de production des différents fonds de manuscrits intégrés à Calame. On peut aller voir, hein, je sais pas si c'est toc, toc. Bah, Aix-Marseille, tiens, c'est marrant.
Regarde-nous.
Il faut que je regarde le public, pardon, pardon.
Je regarde le public. C'est là, le public, il faut les
tu regarderais ton écran, ça serait un peu pas pareil, je pense.
Alors, t'as raison, c'est vrai. Hop,
là.
Clair. Alors, on va prendre le groupe premier, par exemple. Hop. Donc, on va chercher les manuscrits au fur et à mesure. Hop. Donc là, on a une notice. Hein. On a la cote, la date, la langue. Oui, c'est j'y suis arrivé, etc. Donc voilà. Donc je retourne à mon truc. Hop. Donc c'est un catalogue donc des archives et des manuscrits des bibliothèques universitaires françaises, plus celui de l'Institut de France, du Muséum d'Histoire Naturelle et d'autres, et de plusieurs établissements de recherche. Il y a environ une quarantaine d'établissements actuellement. C'est vraiment un catalogue en devenir. Hein, ça fait pas très longtemps que c'est en route. Depuis 2008, alors le comité de création, de travail sur Calame a commencé en 2002. En 2008, ils ont commencé à intégrer des fonds. Il est donc vivant, c'est un instrument de recherche, de notices, qui est en cours de constitution ou partiellement publié. Donc les sources antérieures à Calame, c'est le catalogue PALM, le répertoire national des manuscrits littéraires français du XXe siècle, ainsi que le CGM, catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France. Le format de Calame, c'est donc l'EAD, Encoded Archival Description, standard d'encodage et d'instrument de recherche archivistique, basé sur le langage XML, donc un tout petit cours, hein, silence pour, excusez-moi. Donc le XML, c'est un langage de balisage structuré qui permet un repérage de la structure hiérarchique du texte ainsi que de son contenu par le balisage. Une petite balise, vous verrez ça plus tard. Le AD, c'est une DTD, c'est-à-dire une description de type de document qui donne le vocabulaire, c'est-à-dire les balises et les attributs propres à chaque type de document, et une grammaire qui dicte dans quel ordre et à quel endroit utiliser ces balises et ces attributs. Donc un document EAD est hiérarchisé en emboîtement comme une poupée russe. Au niveau supérieur de description, on a l'entête, ce qu'on appelle donc, dans le langage EAD un peu brut, le header. C'est le niveau des métadonnées et des préliminaires, ce qu'on appelle le frontmatter. Dans le corps de l'inventaire, on a le niveau ArcDesk qui donne l'architecture de la description. Ça donne les informations globales sur la collection, puis après la description, le DSC, description des sous-composants, puis enfin, enfin la petite poupée russe, les C composants qui sont le dernier de description, c'est-à-dire la notice pour chacun des manuscrits. Donc l'interface de catalogage, c'est sur Internet Explorer, parce qu'on on travaille en ligne en fait, hein, on n'est pas directement sur le poste. Donc ici. Pardon ?
Internet Explorer, il y a une contrainte de l'interface.
Ah oui, c'est-à-dire que si on essaie de travailler.
Ça a été développé pour une version de...
Voilà, ça a été développé. En fait, on travaille sur Xmetal, et donc c'est un logiciel qui peut fonctionner sur Internet Explorer.
Et sur quelle version en plus ? Parce que j'ai vraiment pas changé de version.
Enfin, jusqu'à présent, en fait, les techniciens de la BES font le nécessaire pour que chaque version. D'Internet Explorer, que Xmetal soit à chaque fois compatible pour les nouvelles versions d'Internet Explorer. Et c'est vrai qu'on reçoit régulièrement des informations pour nous dire veuillez télécharger ça, reprendre prendre toutes les nouvelles. Voilà, même par exemple, on peut travailler sur Mozilla, mais en fait on transforme Mozilla en Internet Explorer. C'est rigolo. Voilà, donc vous avez ici, à votre gauche, n'est-ce pas, l'arbre, donc l'arborescence, qu'on aperçoit. Donc, au milieu, la fenêtre de production, c'est là où on écrit ces notices. Et à droite, les attributs. Donc, pour à chaque fois qu'on est dans une balise, on doit faire attention de mettre l'attribut correspondant à la balise pour que ça devienne une métadonnée, en fait, pour que ça puisse être compris par le. C'est l'arborescence de l'instance de la deck qui produit. Je suis en train de produire le catalogue des manuscrits taille, ça va être l'arborescence des manuscrits taille. Depuis son titre, depuis le haut titre.
C'est pas par exemple header.
Non. Ah si, on le voit après. Là par exemple, ici on est justement à header. On est tout en haut de l'arborescence. Comme ça, peut-être un peu compliqué. Et là, on est donc tout en haut, on voit head header, c'est la balise, on a une balise, et à l'intérieur de la balise, on a le code qui correspond à notre maison, à la maison de l'Asie, enfin les EO en l'occurrence. Même plutôt même à la BULAC, parce qu'on fait partie de la BULAC pour les licences de CADAM. Et donc là, on a le titre tout en haut, le titre de l'inventaire des manuscrits tarifs. Voilà. Et après, on peut voyager tranquillement dans son arborescence pour aller à chaque fois où on veut dans l'arbre.
Qui a défini ?
Ben on va le voir, je vais y venir. En fait, c'est moi, c'est celui qui produit l'instance, qui décide de la manière dont il va construire son arborescence et la description de son fond. Mais je vais y venir quand je parlerai du travail que j'ai fait dessus. Pour l'instant, on est purement dans la description de CADAM. Ici, donc, on a un autre exemple, le haut niveau, dit de Ardès. Donc, ici, là, le titre, le producteur, les cotes élargies, donc l'extrême, pardon, de 1 à 363, d'autres données, mais ça aussi, je vais revenir. Donc, c'est juste un exemple de montrer. Là, ici, donc, on a l'arborescence de l'instance que j'ai commencé à faire sur manuscrit taille, l'ancienne indochine française, donc encore. Ici, vous avez trois niveaux, enfin, ils sont tous au même niveau, mais on a trois types de descriptions. Vous avez le process info, ce sont les informations sur la manière dont dont le catalogue a été fait, la manière dont les manuscrits sont arrivés dans la maison. Ici, le contenu, scope content, c'est le contenu du catalogue, donc le type de manuscrit qu'on a. Et arrangement, c'est le classement, le cadre de classement qu'on a décidé de faire pour cette instance, pour cet inventaire. Ici, encore là, on continue. Donc, hack info, ce sont les informations sur l'acquisition. Comment est-ce que les manuscrits ont été acquis par l'institution. Et custodis, c'est l'histoire de ces manuscrits. L'histoire de ces manuscrits. Je reviendrai après. Là, c'est vraiment l'exemple de l'arborescence Cala, mais je vais revenir sur tout ça quand je parlerai des manuscrits taille. Ensuite, à partir de la description des sous-composants, on en est encore plus bas. Là, en fait, je suis parti d'en haut de l'arbre, et puis de petit à petit, je suis parti de la grosse poupée, et on va à l'intérieur vers la petite poupée. Et là, on arrive vers la petite poupée. Ici, c'est tout simplement une notice pour un manuscrit, à l'intérieur d'un groupe qui fait partie du cadre de classement, le groupe G2, donc le groupe de manuscrits Taideng, des provinces de Tanhua et de Nian. Voilà. Là, c'est encore un autre exemple. Ici, avec les balises, et ici, sans les balises. Donc, ici, on est dans la vision qu'on a, on voit les balises pour pouvoir travailler à l'intérieur. Et quand on enlève les balises, ça donne ça. C'est à peu près ce que les gens vont voir quand ils vont être dans l'interface publique. Donc, on voit le type d'écriture, le nombre de le support, le nombre de feuillets, le format, savoir comment la manière dont si c'est relié ou si c'est collé, voilà. Et le type de conditionnement, la description du contenu, en l'occurrence cérémonie interdite du premier mois Taïdan, contes et légendes divers, et le cadre de le classement intellectuel, anthropologie, religion, littérature. Tout ça, ce sont des indexations. C'est-à-dire que il y a, tout à l'heure on parlait des listes d'autorité. Si le lecteur va chercher dans CADAM, je veux chercher tout ce qui dit, tout ce dont il est à l'effet, tous les manuscrits qui parlent de cérémonie, parce que je suis allé chercher, j'ai créé un hypertexte avec cérémonie, avec une autorité matière du SUDOC, de l'IDREF, vers cérémonie, on pourra effectivement aller chercher tous ces documents. Hein. Pareil pour Taïdam. Ouais.
Tu retapes tout, en fait, parce que tu parles de manuscrits que tu rentres. Donc là, tu retapes tout le manuscrit.
Ah non, 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 je fais comme une description, comme un catalogage normal. C'est-à-dire que c'est du contenu. Je décris, je fais une description. Ça, c'est moi qui l'ai écrit, ouais. C'est une notice, ouais. Ouais, ouais, c'est moi qui l'ai écrit, ouais. Tout à fait.
Bah,
on peut se y revenir, mais on peut le faire, mais en fait pas du tout de la même manière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas on n'est pas du tout dans un système de Unimark où on est obligé de faire du double champ, vu qu'on est dans l'XML, dans le AD, c'est libre. Donc en fait, il y a un choix qui est de bonne pratique qui est fait en pleine discussion parce que la double écriture elle se teste avec les FEO, il n'y a pas d'autres encore établissements
dans Calabre.
Et donc, il est question de faire des entrecrochets, par exemple, pour la double écriture. Parce qu'on ne peut pas.
Et ça sera la même zone, en fait, sauf que tu utilises la double écriture au sein de la même zone.
Mais dans le cas de l'XML, on s'en fiche.
Oui, ça, c'est sûr.
Parce qu'on est dans une recherche en plein texte. Donc,
oui, sauf qu'il y a après une question d'harmonisation de la pratique elle-même.
Bien sûr. Mais là, de toute façon, c'est vraiment un catalogue en devenir. Donc, il y a tout un groupe de travail qui pose la question. Et ben, si c'est les FEO qui a commencé, après on verra si c'était la bonne pratique, et puis c'est la dose qui va s'y mettre, on comptera la pratique, on verra bien. Mais effectivement, la double écriture, ça va se poser. Donc l'intégration du fond, maintenant, on passe maintenant effectivement au manuscrit taille dans le Calam, le processus d'intégration d'un fond, du fond taille en l'occurrence, dans Calam. Il y a quatre étapes dans l'intégration d'un fond. D'abord, la définition de l'objet et la typologie des documents. En l'occurrence, le fonds MSS Taille est un fonds constitué et fermé depuis son intégration dans les collections de la bibliothèque. Il possède déjà son catalogue tapuscrit. Il est là, réalisé par les FEO en 1994. Je vais le faire tourner. Et c'est là-dessus que j'ai travaillé. Après, ça a été vraiment un choix. En l'occurrence, on a des fonds qui n'ont pas de catalogue encore et des fonds qui en ont un. La question, c'est de se dire, qu'est-ce que je fais quand tu produis ton instance, est-ce que je refonde complètement mon catalogue, je le réinvente, ou est-ce que je me sers d'un catalogue déjà, de l'histoire existante déjà du fond et donc de ces catalogues. Moi, j'ai fait le choix de garder le catalogue par respect pour l'histoire du fond et l'histoire aussi du travail bibliothécaire qui a été fait avant moi. Pas que ça s'oublie, il ne s'agit pas de réinventer la roue tout le temps. Donc j'ai préféré garder le catalogue et même intégrer ce catalogue dans le Calam. Vous verrez après, je vais revenir directement, entre guillemets, tout simplement, avec des commentaires de moi-même, et ça je le signale aussi, commentaires bibliothécaires, si par exemple j'aperçois qu'il y a des formulations, des termes qui sont un petit peu vieillissants, ou des jugements de valeur, des choses comme ça, pour essayer de voir des choses. Donc ces documents sont, les fonds de manuscrits de taille ont des documents très homogènes, ce sont tous des manuscrits ethniques, entre guillemets, sur papier chiffon, collecté dans les provinces septentrionales du Vietnam. Oula, c'est quoi ça ? Hop, pardon. Donc, deuxième phase, la préparation avant traitement. Donc, c'est constituer un dossier documentaire sur le fond et les traitements bioéconomiques qui concernent. Donc, quand et par qui a-t-il été constitué ? En l'occurrence, là, ça a été pour la plupart collecté par Henri Maspero. Ramené par les FEO au départ d'Hanoï, voilà. Qui a déjà travaillé dessus et quels documents existent-ils dessus? Donc en l'occurrence là, il s'agit de l'ancienne conservatrice de la bibliothèque des FEO, Catherine, Christine Rajot, qui a fait ça en 1994, aidée en cela par Raquel Filosa et Olivier de Bernon, et également, et aussi avec des immigrés thaïs d'Orléans, ils ont fait venir des autochtones qui vivaient à Orléans pour leur traduire les titres et leur enseigner sur ce quoi il s'agissait. Donc, faire le récollement du fond et l'enregistrement du travail effectué. Donc le récollement physique doit être systématique avec grille de description pour chacun des documents dans la mesure du possible avec quelqu'un pour le faire, si on a quelqu'un pour le faire et l'argent pour le payer. On verra plus tard avec les manuscrits européens. Là, dans ce cas, il n'y a pas eu de travail de récollement avant. Ça aurait dû être le cas, mais j'avais personne pour le faire. J'ai préféré, aussi parce que j'avais envie d'avancer, direct le faire au fur et à mesure. Et je vais revenir après, à chaque fois on revient pour corriger les, la notice quand il y a des changements à faire. C'est pas bien, parce qu'en plus, voilà, c'est pas bien, mais bon, c'est comme ça. Donc après, évidemment, on enregistre tous les documents créés et les procédures employées, on fait un dossier pour laisser trace du travail. Troisième moment, le classement. Donc faire le cadre de classement, le classement fin, tri et élimination. Dans le cas des manuscrits taille, le cadre de classement était déjà effectué dans le catalogue de 94 qui tourne là. J'ai donc, comme je vous l'ai dit, décidé de constituer l'instance comme une rétro-conversion en fait, de ce catalogue pour préserver l'historique du fond. Voilà. Il n'y a pas eu de tri-élimination à faire parce qu'il est très homogène. Quatrième phase, le catalogage. Principe important, donc pas de normes, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de normes équivalentes à l'ISBD, mais c'est établi par un groupe AFNOR. Ces normes concernent l'utilisation adéquate des balises et des attributs, ainsi que le placement des éléments et des sous-éléments dans l'arborescence. On définit les éléments de description sans prescription d'ordre, ni de mise en forme. Cette description doit correspondre au principe des niveaux d'emboîtement dont je vous ai parlé tout à l'heure, ainsi que il faut être précis et concis. Voilà, l'intégration du compte, toujours pareil. L'identification, ça fait toujours partie de la quatrième phase. Donc, on met la cote, le nom et la localisation de l'institution, l'intitulé, donc le titre, la date, la description physique, donc ça c'est l'importance matérielle, les supports, la reliure, les langues, les écritures. On met le contexte, le producteur, le nom, le rôle, la biographie, la personne, la collectivité au plus haut niveau de la description. Le contenu et la structure également, donc le contenu sous forme de la description que vous avez vu tout à l'heure, le classement également, les conditions d'utilisation, donc réserve de communication, contraintes matérielles, etc., l'acquisition et l'évaluation, donc historique de la conservation, tout ça, on met ça à l'intérieur, les documents en relation, est-ce qu'il existe et où ça, des reproductions, des originaux, des sources complémentaires. C'est ici qu'on va intégrer, par exemple, la numérisation des manuscrits, parce que dans Calame, comme on est dans l'hypertexte, on peut intégrer une image au cœur même de la notice. Et donc, ce que je compte faire, c'est de numériser tous les manuscrits et directement les avoir à disposition. La personne pourra cliquer sur la cote et paf, il y aura l'image du manuscrit, tout le manuscrit, directement visible. Et tout ça est hébergé par la VES à Montpellier. Donc voilà, par exemple, ici, on a l'institution, donc exemple, hein, le manuscrit taille, l'institution qui est là-haut, École française d'Extrême-Orient. Les identifiants, on a les codes extrêmes, de 1753, les langues et écritures ici, en taille, mais en vietnamien. On a ici l'historique, collecté et rapporté par René Mastero. Et là, j'aurais pu. J'ai pas encore intégré, je me suis rendu compte en train de ma préparation, que j'ai pas mis les conditions d'utilisation, donc ce serait que c'est bien d'intégrer les conditions d'utilisation Hop, ici les producteurs, on en a deux. Le producteur du catalogue, la première, donc Christiane Rajoux, l'ancienne conservatrice qui a fait le catalogue papier, dont je me sers pour celui-là. L'autre producteur, c'est moi, puisque c'est moi qui produis effectivement l'instance Calame. La date de l'unité documentaire, elle est ici aussi également, en 94, on voit pas bien, le contenu et le classement donc, que je vous ai montré tout à l'heure. Toc. Voilà, donc un exemple de notice que je vais faire, comme j'ai fait tout à l'heure, où on voit toutes les données du groupe, ça c'est encore l'image tout à l'heure. Hop. Donc, conclusion pour les manuscrits taille. Donc, à ce jour, j'en ai fait 221 sur 353. C'est un fond donc homogène et relativement facile à traiter. Oui, c'est vrai que je peux regarder là. Il n'y a pas de préparation avant traitement par manque de moyens. Donc, il me faudra corriger les données intégrées une fois terminée l'instance, EAD. Et la fin de traitement est prévue en octobre de cette année, après correction technique et qualitative, comme par exemple les écritures, parce que j'aimerais bien peut-être... En fait, non, c'est pas vrai. J'aurais bien aimé directement mettre l'écriture vernaculaire, c'est-à-dire en l'occurrence le taille. Mais comme on a des notions de taille, dame, taille-dame, taille-le, c'est taille-dame, j'ai un unicode, taille-dame, j'en ai pas, taille-le. Donc j'ai préféré faire le choix de la transcription plutôt que d'en faire certaines notices en écriture vernaculaire et pas d'autres. Voilà. Donc voilà le traitement. Alors maintenant, les manuscrits européens. Ça va, le timing, c'est bon? Oui.
Mmh.
Je sais pas, ça va aller. Donc le traitement du fond des manuscrits européens a été différent de celui des manuscrits thaïs. Donc on a, tout simplement parce qu'on a fait le récollement avant. Des 4 étapes de la procédure, les 2 premières ont été faites, les 2 autres sont en cours. Le catalogage n'a pas encore commencé. Donc définition de l'objet et type de document, donc on reprend la procédure comme tout à l'heure. Le fonds des manuscrits européens est un fonds constitué entre 1880 et 1950. Son catalogue regroupe les photocopies des notices cartonnées. Les documents sont des cahiers avec pour certains des feuilles volantes, courriers personnels ou administratifs. On revient par rapport chez notre ami les anomes. Il est parti. Bon ben ça m'a fait peur quand j'ai vu ça. Effectivement, je ne sais pas ce qu'on peut traiter ou pas. On le fait. C'est pareil. On le fait quand même, comme a dit l'artiste tout à l'heure. Préparation avant traitement. Donc, hormis le catalogue, on n'a pas de document interne à l'EFEO sur ce catalogue-là. S'il existe quelques mentions de ce fonds dans les BFEO, donc le bulletin de l'École française d'Extrême-Orient, elles sont rares. On a un dossier documentaire, donc avant traitement, qui est plutôt vite compilé. Le récollement est en train d'être fait, en train de se terminer là, actuellement cette semaine, par un stagiaire d'abord qui a travaillé 3 mois et 15 jours maintenant. Et en fait, il a fait ça à partir d'une fiche descriptive par manuscrit et d'une fiche descriptive générale que Maïté a fait, en fait, qui collabore avec à ce travail. Et donc, il fait aussi un contrôle systématique par pièce. C'est la fiche qu'on lui demande de remplir. Donc, avec les références au code, intitulé, il remplit les cases. Là, c'est enfin, par exemple, vocabulaire français de Chong, de Mancrate, la cote tout en haut, l'auteur, avec explication, le niveau de description, l'importance matérielle, présentation du contenu, etc. Et avec ces fiches-là, moi ou quelqu'un d'autre, un autre bibliothécaire, n'a plus qu'à rentrer directement toutes les données dans le CALAM. Donc, on aura vraiment gagné du temps. Hop là. Le classement, les différents sous-fonds des manuscrits de taille n'ont jamais été formalisés. Le récollement a permis d'effectuer un cadre de classement précis. Le récolleur propose le cadre de classement suivant. Donc d'abord, le fonds général des manuscrits européens. Ce sont les manuscrits antérieurs à la création de l'EFEO. Oulala, on est parti. Hop, voilà. Plus les manuscrits des chercheurs EFEO à partir de 1930, plus les manuscrits collectés par l'EFEO. Dont l'aigle d'origine inconnue et autres d'origine inconnue qui n'entrent pas dans le cadre des autres fonds. Ensuite, on a le fonds Louis Finot, manuscrit issu des recherches ethnographiques et archéologiques des chercheurs FEO depuis sa création jusqu'en 1929, date à laquelle Louis Finot a quitté la direction de FEO. Ensuite, on a le fonds des administrateurs civils et militaires, les manuscrits issus des enquêtes ethnographiques et ethnolinguistiques effectuées sur le terrain par les administrateurs coloniaux, souvent affiliés à FEO. Ça entre 1870 et 1930. Et là-dessous, on a 2 sous-classements, les archives civiles par zone géographique et les archives militaires par territoire militaire. Ensuite, on a le fonds VOC, manuscrit issu des archives de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, rassemblé en grande partie dans les années 1930, en gros pour quelques articles, hein, par WGM Bush, pour les articles, plusieurs articles sous le même titre. La Compagnie des Indes néerlandaises et de l'Indochine dans différents BFO de 1936 et 1937. Il s'agit de copies d'archives traduites parfois en français et de rares traductions d'ouvrages imprimés.
Il y a pas copies d'archives,
hein. Ce sont des archives qui étaient sur place, c'est une copie manuscrite.
D'accord.
Fonds Jean Filioza, manuscrits et documents tapuscrits. C'est le fonds le plus tardif. Ce sont des thèses et des études menées entre 1955 et 1977 sur l'indologie. Donc un fonds un peu particulier par rapport à l'homogénéité du reste. Voilà, donc le catalogage, il doit débuter à la rentrée. Les fiches descriptives permettront donc une intégration rapide. Et par contre, la formation de bibliothécaire permettrait d'accélérer le mouvement. C'est un peu compliqué, on aimerait bien que ça se fasse. Comme pour les manuscrits taille, la numérisation des manuscrits déjà entamés permettra l'intégration des documents eux-mêmes au catalogue. Leur consultation se fera par simple clic, comme je le dis sur un lien hypertexte, les fichiers sont hébergés à la baisse. En conclusion, donc, pour les Fontaines, la valorisation des manuscrits de l'EFEO par leur intégration dans le catalogue CALAM et leur numérisation a en 2011 et 2012 pris un réel départ, enfin. La publication des 2 catalogues de manuscrits de taille et manuscrits européens sont prévus pour le dernier trimestre 2012. Les difficultés que j'ai rencontrées, c'est d'abord le temps. Pareil, comme d'habitude, on s'est souvent revenu depuis hier, enfin depuis aujourd'hui, ce matin. Il n'y a qu'un seul bibliothécaire formé, vous-même, une seule licence. Donc faire compatir Calam avec les autres activités de la bibliothèque, c'est parfois difficile, car ça demande une sacrée concentration pour travailler dans l'année. C'est vrai que c'est pratique et c'est très chouette pour travailler dedans. C'est intellectuellement super enrichissant, mais par contre, vraiment, c'est rester concentré, parce que dès qu'on arrête une journée ou deux, on met une heure à... Enfin, moi, je mets une heure à revenir dedans. Donc ensuite, les problèmes de transcription d'écriture et d'unicode. Pour les manuscrits de taille, donc, comme je disais, il y a différentes écritures, je me répète un peu. Voilà. Et en l'occurrence, j'ai choisi là pour la transcription celle de la CIL, la Pop-Pop Summer Institute of Linguistics, là, les religieux, parce que c'est eux qui font un réel travail de linguistique et de Unicode aussi, de normalisation de l'Unicode. Dans le cadre celle des langues taille, en l'occurrence, au Vietnam. Ensuite, la maîtrise du logiciel et des bonnes pratiques, c'est du permanent en fait. Comme c'est un outil qui évolue tout le temps, bah, il faut rester en contact tout le temps avec la baisse, avec les gens qui sont à la baisse. Ce qui est plutôt chouette, hein, comme elle le disait ce matin, la dernière fois. Ouais. Oui, elle est partie, elle m'a dit qu'elle était partie. Ouais. Elle est partie. C'est vrai que c'est chouette de pouvoir travailler avec eux, il y a une vraie dynamique, mais en même temps, il faut le faire, il faut y aller et il ne faut pas rester tout seul parce qu'effectivement, on ne tient pas au courant des évolutions. Quoi. Donc c'est quand même assez laborieux et ça demande d'être bien rigoureux, donc du temps. Voilà. Voilà, petit clin d'œil, j'ai mis Docasi, j'ai mis FEO et puis j'ai mis un cachet sacré issu d'un des manuscrits. Et voilà.
Merci beaucoup.
Hein? Pardon.
De quoi?
Pardon. En termes de coût entre la formation, plus la licence, projet,
En termes de coût?
C'est la conservatrice qui a payé, je sais pas. Formation Calam, c'est cher, hein, de toute façon, je pense. Hein. Et la preuve, c'est que. Je sais pas.
T'as eu la formation de l'année avant, non?
Oui, j'ai eu une formation à l'ADA, effectivement. Et ensuite, après, une formation à Montpellier. Donc, deux formations. Ça coûte assez cher, effectivement.
La licence aussi, je crois.
Et la licence aussi est assez chère. Là, on a eu la chance, on a demandé à la BULAC, parce qu'on est intégré à la BULAC, et il faut qu'on passe par la BULAC pour avoir les licences, parce que c'est la BULAC qui est dans le Calam, mais pas nous. Les FEO, on a notre nom. Donc on a la chance d'en avoir obtenu une deuxième. C'est pour ça que c'est quand même effectivement certainement assez cher. Et parce qu'en fait, je crois qu'on nous en a quoi 5 à la BULAC en tout, quoi. Y compris nous deux. Je crois qu'on en a 5 en tout. 3 à la BULAC et 2 chez nous. Je ne pourrais pas te donner de prix. Là. C'est assez cher.
La qualité de documents ne tombe pas. Combien
la quantité de tous les fonds?
Non,
de Tombas. Elle est Tombas, elle est je crois qu'il y a 16 manuscrits. 16. Je pense, oui. Je pense. Mais j'ai fait.
Numéro
40. Ah, on va revenir dedans. Toc. Ah oui. Excusez-moi un peu. Oh là là. Alors, est-ce que c'est par là? Non, c'est par là. La cible. Non, c'est pas lui, c'est avant.
Oui,
c'est lui, non? La cible, voilà. 46 manuscrits. Oui, 46, oui, je confonds avec celui que je ne fais pas. L'autre là. Batac, je ne savais pas, 46 manuscrits. Je pense que. Je ne sais pas lequel j'ai pris d'ailleurs.
Le catalogué,
j'ai pris le 1. Non, pas du tout.
Pas du tout.
Ils ne sont pas
du tout catalogués, comme je l'ai expliqué. Seuls sont catalogués les deux fonds dont j'ai parlé. Donc, l'UNACI, il n'y a même pas d'inventaire précis là-dessus. Hein. C'est juste qu'il y en a 46 parce qu'on a. Ils sont bien rangés dans une étagère, mais il n'y a pas d'inventaire.
Je peux ajouter une chose.
Ouais, bien sûr.
En fait, ils ne sont pas du tout catalogués, mais dans chaque manuscrit, il y a un petit morceau de papier qui dit, par exemple, rituel.
Voilà. Il y a certainement des gens qui sont pas. Oui, il y a des gens qui sont passés
pour avant. Amener la pluie, voilà, des choses comme ça. Mais c'est vraiment très.
Excuse-moi. Oui, je t'en prie. S'il te plaît. S'il te plaît. Là. Oui.
Moi, j'ai juste deux questions. La première, c'est est-ce que je sais plus si tu as dit des éléments sur l'histoire du fond.
Oui.
Comment ces trucs-là se retrouvent là?
Et
deuxième question, qui c'est qui fait le choix du vérité? Parce que, par exemple, j'étais frappé à un moment, tu as dit qu'il y avait des traductions de copies de rapports pour l'anglais.
Oui.
Et par exemple, je me dis, quel est l'intérêt, est-ce qu'il y a une communication avec l'original aux Pays-Bas? Enfin, je ne sais pas quel est l'intérêt de. Parce que pour moi, c'est une source secondaire, une copie, une traduction résumée. Bon,
bien sûr, oui.
Et donc, je me dis, qui fait le choix, par exemple, de. Est-ce qu'il y a des comités qui.
Non, en l'occurrence, là, on s'aperçoit vraiment que l'historique d'un fonds est super important parce que on est un peu tributaire de la manière dont ces manuscrits ont été intégrés à l'institution et ce que les gens en ont fait. Alors, pour ta première question, en l'occurrence. C'était la première question, c'était. Pardon.
L'historique
du fonds. Effectivement, on se retrouve avec des collections. Là, pour les manuels en général, ce sont donc les administrateurs coloniaux qui ont collecté ces fonds, ou un chercheur de l'IFEO, en l'occurrence Henri Maspero pour le fonds taille.
Cédès, par exemple, il a rien transmis ou...
Si, Cédès, dans les manuscrits européens, il a transmis. Dans les manuscrits européens Non. Non, c'est plutôt Maspero. Apparemment, un journal historique. Donc, ce sont ces gens-là qui les ont ramenés déjà à Hanoï, tout d'abord à Hanoï. Et ensuite, quand les fonds sont partis du Vietnam, en France. Et encore, pas tous les fonds. C'est-à-dire pas tout le fonds en entier. Le fonds a été scindé de manuscrits. Il y a certains manuscrits qui sont restés au Vietnam et qui sont encore là-bas. Ça, c'est au niveau historique. Effectivement, il faut réussir à retracer l'historique pour bien montrer, bien intégrer toute cette historique dans le catalogue Calame. Pour effectivement avoir l'info. Par rapport à ces histoires de sources secondaires, c'est vrai que dans le cas de. C'est le fonds de l'EOC dont tu parles, on se demande ce qu'il fait là en fait. Et on n'a pas tellement l'information. Tout ce qu'on a comme information, c'est que ça a été collecté pour un article. Alors c'est quand même rare, hein, c'est bizarre. Parce que c'est bien de collecter, c'est pas rare de collecter des informations pour écrire un article. Mais pourquoi est-ce que ces documents copiés, même de manière manuscrite, et traduites, ont-elles été intégrées au fond? Mais maintenant que ça l'a été, maintenant que ces documents ont été intégrés au catalogue, au fond des manuscrits de l'EFEO, on ne peut plus les en sortir, ils sont là. Donc on les traite maintenant comme n'importe quel document du fond. Mais c'est vrai que sur l'histoire de 100 ans, plus d'un siècle de constitution de fonds de manuscrits, on a parfois des trucs bizarres qui se font. On se demande effectivement pourquoi est-ce que ça a été intégré. Et petit aussi, parce que là on parle manuscrit et archives, il y a une nuance qui est un petit peu bizarre là-dessus, qui est un peu délicate à faire. À l'EFEO, on a des archives et on a des manuscrits. Ça, ce sont des manuscrits. Mais en l'occurrence, dans ces manuscrits, ce sont des choses qui pourraient très bien être considérées comme des archives. Par exemple, beaucoup, c'est parfois des notes de terrain de chercheurs. Donc pourquoi est-ce que ce ne serait pas simplement des archives des chercheurs de l'EFEO, quoi. C'est quelque chose. Parce que, en gros, dans l'histoire de la constitution de fonds de manuscrits, ces fonds-là ont été considérés comme fonds des manuscrits de l'EFEO et d'autres ont été considérés comme des fonds d'archives. Mais on est un peu piégé, pris par ce classement qui a été fait auparavant. C'est l'histoire du fond. Voilà. Okay. Merci beaucoup. La suivante.